Midi et demi sur France Culture. À la une de l'actualité, trois ministres, dont le chef du gouvernement, en visite aujourd'hui à Nice. Cinq jours après une fusillade dans le quartier sensible des Moulins, Jean Castex, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti annoncent des mesures sur le thème de la sécurité. La pandémie de Covid-19 qui repart de plus belle en France, où le nombre de nouvelles contaminations dépasse le millier depuis deux jours. On fait le point sur la situation avec Cosima Mezidi Alem. Et puis au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson reconnaît, lui, des lacunes dans sa gestion de la crise sanitaire. Enfin, nous irons en Tunisie, en pleine crise politique. Le Parlement enchaîne les blocages, vous l'entendrez. L'exécutif sort le grand jeu à Nice après la fusillade devant un supermarché lundi dernier. Dans le quartier des Moulins, le Premier ministre Jean Castex est en déplacement dans ce quartier sensible. Il est accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Jean Castex qui promet des annonces sur le thème de la sécurité. Le dernier mot, c'est la République qui doit l'avoir et personne d'autre, d'après le Premier ministre. Déclaration du Premier ministre donc qui déambule dans les rues du quartier Moulins, quartier sensible de Nice où s'est rendu Stéphane Peyre, juste avant la visite des ministres.
Cinq jours après la tentative de règlement de compte au calibre 9 mm, journée ordinaire sur la dalle Martin Luther King. Devant le supermarché où la police a ramassé des dizaines de douilles, on se salue, les enfants jouent. À deux rues de là, le principal point de deal du quartier, avec ses halls, ses guetteurs, ses vendeurs, assis tranquillement sur des chaises dans les allées de la seule partie des Moulins qui n'a pas encore été rénovée. Aucun habitant n'a été blessé cette fois, dit Eric, le pizzaiolo, mais ce n'est pas grâce à la police.
Le commissariat à 100 mètres, il sert absolument à rien parce que quand les gens demandent une intervention, ils viennent pas. Vous vous rendez compte, il a fallu ça pour qu'il y ait des politiques qui se manifestent et sincèrement, je vois pas dans les semaines qui viennent pourquoi il y aurait un changement. C'est un problème de fond, voilà.
Le policier Nicolas Vincent du syndicat Alliance entend la critique. Il rappelle aussi la réalité du trafic dans ce quartier classé pourtant quartier de reconquête républicaine depuis un an et demi.
Ils sont de plus en plus organisés, ils craignent plus la police et puis en plus ils craignent plus la justice quand ils se font arrêter.
Pour empêcher l'escalade, le préfet des Alpes-Maritimes a affecté temporairement 7 patrouilles en plus. Une unité de CRS est aussi descendue de Paris pour camper au bas des immeubles et empêcher d'autres règlements de compte.
Un reportage de Stéphane Peyre. Le Premier ministre Jean Castex qui s'exprime en ce moment. Il promet la création de 150 emplois pour le traitement judiciaire des infractions et l'affectation de 60 policiers à Nice dans les semaines qui viennent. Il annonce également l'expérimentation de l'extension des compétences de la police municipale. Un incident électrique ce matin dans une usine classée Seveso. C'est l'usine Borealis à Grand-Quevilly en Seine-Maritime. Aucun danger selon le groupe industriel qui promet que le réseau électrique sera rétabli en fin de journée. Pas de victimes ni de dégagement toxique à signaler, toujours selon Borealis. Benjamin Stora a été choisi par Emmanuel Macron pour conduire une mission sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Le but est de favoriser la réconciliation entre les peuples français et algériens d'après l'Élysée. Les conclusions sont attendues pour la fin de l'année. Nouvelle mise en examen pour Patrick Balkany, cette fois pour détournement de fonds publics. L'ex-maire de Levallois-Perret est soupçonné par le parquet de Nanterre d'avoir utilisé des agents municipaux à des fins personnelles lorsqu'il était maire. Patrick Balkany, je le rappelle, condamné en appel à 5 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale. Le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter en France. 1130 nouvelles contaminations jeudi. C'est le deuxième jour consécutif où le millier de cas a été dépassé. Cosima Mezidi Alem, bonjour.
Bonjour.
Les autorités sanitaires appellent à un meilleur respect des gestes barrières.
Exactement, Laura. Dans son bilan, la DGS, la Direction Générale de la Santé, affirme que tous les progrès accomplis pendant les premières semaines du déconfinement ont été effacés, car aujourd'hui, le niveau de contamination est revenu au niveau constaté à la fin du confinement.
Nicosima, combien y a-t-il de foyers de contamination en France ?
Actuellement, il y en a 215 en cours d'investigation. Ces fameux clusters sont notamment recensés dans le Nord, en Mayenne, dans la région du Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine. À l'origine, ils étaient détectés dans des lieux précis comme les abattoirs ou les EHPAD, mais maintenant ils se créent en majeure partie lors de réunions de famille. En retrouvant leurs proches, les individus se relâchent et ne respectent plus les gestes barrières. Par exemple, le cluster le plus récent s'est développé lors d'un mariage en Haute-Savoie où 12 personnes ont contracté le virus.
Et face à cette hausse de cas, le gouvernement a mis en place des mesures restrictives, notamment le contrôle aux frontières.
Dans les aéroports, plus précisément, hier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un contrôle renforcé des voyageurs. Il recommande aux ressortissants français d'éviter de se rendre en Catalogne, en Espagne, où la hausse des cas a repris. Mais ce sont plusieurs pays en dehors de l'espace Schengen qui sont visés par des mesures, 16 pays classés rouges. Parmi eux, on retrouve les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, Israël ou encore l'Algérie. Concrètement, les personnes en provenance de ces pays devront fournir un test prouvant qu'ils ne sont pas porteurs du virus. S'il est compliqué de se faire tester dans le pays de départ, des dépistages seront possibles dans les aéroports français dès les premiers jours, au plus tard le 1er août. Si une personne est testée positive, elle devra être placée en quatorzaine. Une décision très critiquée par le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce matin sur France Info, il affirme que la seule solution efficace quand on ne veut pas fermer les frontières reste la quarantaine.
Merci Cosima Mezidi Alem. Les gouvernements payent donc le prix de leur gestion de la pandémie. C'est ce que révèle une étude internationale. Étude conduite dans 6 pays, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis et la Suède, et qui montre que le soutien des populations à leur gouvernement s'érode. C'est particulièrement visible au Royaume-Uni, où seuls 35% des sondés se disent satisfaits de l'action du gouvernement. Et pour sa première interview en face-à-face depuis longtemps, le Premier ministre Boris Johnson est revenu sur la gestion de crise du coronavirus par son gouvernement. Sa priorité maintenant est de se préparer à une potentielle seconde vague. Élodie Goulesque.
Souvent accusé d'avoir instauré le confinement trop tard ou d'avoir changé d'avis sur des sujets cruciaux comme le port du masque, Boris Johnson a voulu hier se justifier. Dans une interview d'une dizaine de minutes donnée à la BBC, le Premier ministre reconnaît une erreur en particulier.
La seule chose que nous n'avons pas comprise au début, c'est à quel point la maladie était transmissible de façon asymptomatique d'une personne à l'autre.
Questionné sur certaines décisions potentiellement prises trop tardivement, Boris Johnson affirme qu'il a toujours suivi et appliqué l'avis des scientifiques qu'il conseillait. Il reconnaît malgré tout qu'une remise en question sera nécessaire.
Il y a peut-être des choses que nous aurions pu faire différemment et le temps viendra de comprendre ce que nous aurions pu faire autrement.
Mais Boris Johnson dit assumer la pleine responsabilité des décisions prises par son gouvernement pendant la crise du Covid et il insiste. Le public veut maintenant être rassuré sur l'avenir et savoir comment son gouvernement se prépare à une probable deuxième vague cet hiver. Lors d'une visite d'un hôpital londonien, hier, le Premier ministre a qualifié les anti-vaccins de fous alors qu'il souhaite que 30 millions d'Anglais soient vaccinés contre la grippe cet hiver pour éviter l'engorgement des hôpitaux.
Élodie Goulesque. Les tensions entre Chine et États-Unis avec cette fois Pékin qui ferme un consulat américain, celui de Chengdu. Une fermeture en représailles à la fermeture de la mission diplomatique chinoise à Houston. Une réponse légitime et nécessaire aux mesures déraisonnables des États-Unis, a précisé le ministère chinois des Affaires étrangères. C'est un moment très critique pour la jeune démocratie tunisienne. Le président Kais Saied doit proposer d'ici ce soir minuit le nom de celui ou celle qui pourrait devenir le nouveau chef de gouvernement. Soupçonné de conflit d'intérêts, le premier ministre poussé à la démission n'aura tenu que 5 mois au pouvoir. Crise au gouvernement donc, mais crise politique au Parlement aussi. Problème, c'est l'Assemblée des représentants du peuple qui devra voter la confiance en ce nouveau gouvernement. Un Parlement qui, depuis plus d'une semaine, vit des blocages inédits au point que le président en personne a dû intervenir. Reportage de notre correspondante Maureen Mercier.
Du jamais vu au sein de l'Assemblée tunisienne, des partis qui s'écharpent à coups de Facebook Live, des bagarres dans tous les couloirs. D'un côté, la députée Habir Moussi, héritière autoproclamée de Bourguiba et de Ben Ali. De l'autre, les islamistes du parti Ennahda et leur Eldur, El Karama. L'Assemblée est paralysée par ceux qui se sont déchirés durant le régime de Ben Ali, incapables de cohabiter dans l'enceinte démocratique. Des partis irréconciliables. Karim Krifa, député du parti d'Habir Moussi.
Si vous parlez sous l'égide de la démocratie et vous êtes en train d'instaurer une dictature des frères musulmans, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que c'est très dangereux.
Réponse de Mère Ziala Bidi, députée islamiste.
C'est des fascistes. C'est l'héritage de la dictature.
Comme tous les Tunisiens, Ikhlas Latif, journaliste politique, est atterré par ce spectacle.
Quand on voit ces deux partis, qui sont deux extrêmes, se sentent réellement des ennemis de la démocratie. Il y a vraiment un énorme danger.
L'Assemblée doit très vite retrouver un peu de sérénité, c'est elle qui doit voter la confiance au nouveau gouvernement, sans quoi la Tunisie, qu'on désigne comme la seule rescapée du printemps arabe, s'enfoncera dans la crise.
Maureen, merci à Tunis. Nicolas Cepeda a été extradé par le Chili Libye, mis en examen et placé en détention provisoire. Nicolas Cepeda, ce Chilien soupçonné d'avoir tué son ex-petite amie japonaise en 2016 à Besançon, il est le seul suspect dans cette affaire et clame son innocence. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. Le temps cet après-midi, une dégradation arrive par le nord-ouest. La pluie s'étend sur toutes les côtes de la Manche et la Bretagne, des nuages jusqu'en Île-de-France. Le soleil en revanche s'impose franchement sur les régions du sud. Quelques risques d'averses sur les reliefs. Les températures cet après-midi seront comprises entre 19 et 22 degrés au nord-ouest, entre 24 et 28 ailleurs et jusqu'à 30 au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia et Swad Boukorsa à la technique.